Le chapitre 14, notre vocation baptismale, avait pour objectif aussi de nous donner quelques éléments sur ce qu'est le baptême. Nous aborderons ainsi deux points en particulier, ce qu'est le baptême, ce qu'est le sacrement du baptême d'une part, et d'autre part, les deux chemins de sainteté qu'il ouvre en particulier, c'est-à-dire le chemin de sainteté du mariage et le chemin de sainteté de la vie consacrée. Alors le baptême, c'est un sacrement. Un sacrement, c'est un don de la vie même de Dieu qui nous est partagé. On est plongé dans la vie de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait de sa propre vie pour que nous ayons part à la vie éternelle, c'est-à-dire à sa propre vie divine, c'est-à-dire à la communion d'amour dans la vie trinitaire du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça que l'on dit que par le baptême, on est fait fils, fille adoptive du Père. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en position filiale? Que l'on reçoit la vie, comme le Fils reçoit la vie du Père. Et donc cela produit une union particulière à Jésus, qui en lui, lui qui est le Fils de Dieu de toute éternité, nous devenons fils du Père, remplis de l'Esprit-Saint, et nous pouvons répondre par lui, dans l'Esprit-Saint, à cet amour que le Père nous adresse. Et donc notre capacité d'aimer, notre capacité à la communion, est donc élevée, disposée à entrer dans la communion de vie trinitaire. Le baptême apparaît donc comme ce qui nous libère du péché. Le péché, je le rappelle, c'est ce refus d'aimer comme Dieu aime. Et lorsque deux baptisés se marient, la réalité, qui est d'abord une réalité naturelle du mariage, devient sacramentelle. Quand deux baptisés échangent leur consentement, leur mariage est sacramentel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'un et l'autre vont puiser dans la grâce de leur baptême, vont puiser dans leur union au Christ, la capacité d'aimer et la capacité à la communion sur laquelle va être fondée leur union et leur vie commune. Le mariage entre deux baptisés est donc sacramentel et indissoluble. Lorsque seulement l'un des deux est baptisé, alors leur mariage sera naturel et indissoluble. Il deviendrait sacramentel le jour où le non-baptisé recevrait le baptême. Il n'y aurait pas besoin de renouveler l'échange des consentements. Le jour où celui qui n'est pas baptisé demande le baptême, alors leur mariage devient par là même sacramentel, c'est-à-dire que le non-baptisé va aussi puiser de son côté dans la grâce de son baptême l'engagement dans le mariage, et du coup leur mariage connaîtra une qualité surnaturelle d'union au Christ pleine et entière. Le baptême ainsi ouvre à deux chemins de sainteté en particulier. D'une part le mariage, et d'autre part la vie consacrée. Chacun va être un signe donné pour le monde. Le mariage, c'est le signe de l'amour que Dieu veut vivre avec son peuple. Dieu veut aimer son peuple comme un époux aime son épouse. Tandis que le célibat consacré va être le signe pour le monde que chaque être humain est fait pour Dieu, que notre bonheur c'est Dieu. Il interpelle étonnamment le monde qui se dit, mais normalement la vocation naturelle de l'homme et de la femme, c'est une vocation au mariage. Eh bien, sur cette vocation, Dieu va adresser un appel particulier où le tout de l'être humain, son corps, son esprit, l'union de son corps et de son âme, va trouver sa joie dans le don total à Dieu, corps et âme, au service de son Église. C'est intéressant de voir que, du coup, le don de Dieu, que ce soit à travers le don du mariage ou à travers le don de la vie consacrée, n'est pas simplement un don pour la personne elle-même, mais il est un don aussi pour toute l'humanité. C'est-à-dire que le don que je reçois a aussi une responsabilité vis-à-vis du reste de la communauté. Si j'ai reçu un don, c'est à la fois pour mon bien, mais aussi pour le bien de l'humanité. On découvre en fait ce que c'est que vraiment un don personnel et pas simplement un don individuel. Le don individuel s'épuiserait, trouverait tout son sens simplement dans l'individu. Non, la personne, c'est à la fois l'individu, mais l'individu ouvert à la relation. Et donc un don personnel, c'est un don qui est pour le bien de la personne, mais aussi le bien des relations de cette personne, le bien de l'humanité avec qui cette personne est en relation. Cela signifie que le mariage n'est pas seulement une réalité privée, mais que, en tant que couple, on a une responsabilité vis-à-vis de la société. On a une responsabilité de témoignage par la qualité de notre amour, de l'amour que Dieu veut donner, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de couple qui s'aime, on ne comprendra rien à la révélation qui veut nous parler de l'amour de Dieu pour son peuple, mais que cette unité aussi de l'homme et de la femme, qui ne fait qu'une seule chair, est appelée à rayonner dans la société, à être un ferment de vie, d'éducation droite, d'apprentissage de la liberté, d'apprentissage de l'amour qui va jusqu'à donner sa propre vie pour le soin de l'autre. En lien avec le sacrement du baptême, je voulais évoquer aussi le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, ce que l'on appelle la confession. Car c'est le sacrement par lequel nous sommes comme replongés dans les eaux de notre baptême. Alors, quand on entend confession, souvent c'est qu'il y a une réalité qu'on n'aime pas beaucoup. On a l'impression que lorsqu'on va se confesser, c'est-à-dire lorsqu'on va dire nos péchés à un prêtre pour recevoir le pardon de Dieu, c'est un peu comme si on allait être pris en photo avec notre visage défiguré par la boue du péché. Alors personne n'aurait envie d'avoir une carte d'identité avec un visage couvert de boue. On dirait, ah ben non, là je ne suis pas du tout à mon avantage. Mais en fait, cette espèce de peur d'être vu, on pourrait dire, dans notre laideur, dans notre visage défiguré par le péché, est une conséquence même du péché. Comme Adam et Ève, après la chute, se cachent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus être vus, qu'on va les mettre à mort immédiatement, eh bien le péché nous donne envie de nous cacher. Alors que la confession, c'est pas du tout le fait de figer justement le mal que l'on aurait fait. La confession, ça va être le lieu où l'on va retrouver notre capacité à aimer. On va être libéré de cette boue du péché et retrouver notre vrai visage, la vraie beauté de notre visage. Parce que la confession, c'est à la fois le lieu où on est donc libéré, lavé du péché, comme si on était replongé dans les eaux de notre baptême, mais aussi fortifié, renouvelé, encouragé dans notre capacité à aimer. Donc bien loin, hein, d'être pris en photo et d'être figé dans la blessure de notre histoire, la blessure du péché, c'est le lieu où on va se refaire une beauté. Voilà, on va se refaire une beauté de l'âme. À chaque fois que l'on va se confesser, on va retrouver la beauté, la limpidité, l'élan de notre cœur pour aimer. Donc d'une certaine manière, si vous voulez rendre un grand service à votre mariage, allez vous confesser. Chaque fois que vous vous confessez, vous allez rendre un grand service à votre mariage puisque vous allez être renouvelé dans votre capacité à vivre la communion d'amour. Je vous encourage donc vivement, en particulier avant votre mariage, d'aller vous confesser. Et puis, même si ça fait très longtemps que vous vous êtes jamais confessé, ou que ça fait, vous savez plus trop comment on fait, eh bien, dites-le simplement au prêtre. Voilà, ça fait très longtemps que je me suis pas confessé. Vous avez le droit de choisir le prêtre que vous voulez. Il y a ceux qui préfèrent un prêtre qu'ils connaissent, d'autres qui préfèrent un prêtre qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est vraiment à votre liberté. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit? Ben on dit les péchés dont on se souvient depuis notre dernière confession. Alors comment, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il y a un critère qui peut nous aider? Le Christ nous donne ce qu'on appelle la règle d'or, qui nous permet un peu d'examiner notre histoire. Il dit, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Eh bien, il suffit de regarder comment je me suis comporté avec les uns, avec les autres. Est-ce que je leur ai fait des choses que j'aurais pas voulu qu'on me fasse? Ah bah tiens, oui, je me rends compte que mon collègue de bureau, là, j'ai parlé dans son dos avec d'autres. J'aurais pas aimé qu'on parle dans mon dos. Eh bien voilà, je viens demander pardon parce que j'ai parlé dans le dos de quelqu'un pour dire du mal. J'ai pris telle chose sans demander ou sans le rendre. Ben, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Seigneur, je viens demander pardon parce que j'ai emprunté un objet sans demander l'autorisation ou bien parce que je l'ai pas rendu et ça peut être assimilé à du vol. Voilà, Seigneur, je viens demander pardon. Voilà, je peux regarder à la fois les choses que j'ai faites en action, que j'ai pensées, que j'ai dites, parfois aussi les choses que j'ai omises de faire. J'aurais dû faire quelque chose et je l'ai pas fait, voilà, par paresse, par mauvaise volonté, mais j'aurais dû le faire et je ne l'ai pas fait. On a, au passage d'ailleurs, toujours intérêt à énoncer des actes plutôt que des défauts. Je vous donne un exemple. Il vaut mieux dire j'ai commis un acte de vol plutôt que de dire je suis un voleur. Parce que justement, la confession vient faire la différence entre le pécheur que Dieu veut sauver et le péché qu'il combat. Alors, si Dieu est en guerre contre le péché, il veut sauver le pécheur. En étant capable de nommer des actes dont je suis l'auteur, hein, je ne refuse pas ma responsabilité, mais j'évite de m'identifier à mon péché. Quand vous voulez tuer quelqu'un, même symboliquement, réduisez-le à son péché. Tu n'es que vol, tu n'es qu'adultère, tu n'es que mensonge. Voilà, on réduit la personne à son péché. Dire des actes aussi, ça permet d'en évaluer la fréquence, parce que ça peut être une aide justement pour savoir quelle grâce nous en avons besoin, de quelle grâce nous avons besoin. En effet, on se souvient plus facilement de ce qui nous a marqué émotionnellement que d'actes qui peuvent être pourtant devenus quotidiens. Pourtant, en termes de poids, vous savez bien que un boulet de 5 kilos, c'est aussi lourd qu'un sac de plumes de 5 kilos. Hein, voilà. Seulement, évidemment, quand vous prenez votre boulet de 5 kilos sur le pied, là, vous vous en souvenez bien parce que ça vous a fait bien mal sur le coup. Mais si on vous a mis dans votre sac une plume chaque jour, on a pu arriver aussi à 5 kilos, seulement vous ne l'avez pas vu venir. Ben, voilà, en donnant des actes, parfois je me rends compte que tiens, ben oui, ça s'était passé une fois, je m'étais disputé avec mon conjoint, on s'était dit des mots vraiment durs, voilà, émotionnellement, ça m'avait fortement marqué, mais là, mon collègue de bureau contre qui je médis, c'est tous les jours depuis 3 ans que je le fais, c'est peut-être là mon lieu de conversion en premier. Donc, donner des actes. Petite précision aussi, il faut entrer dans quel niveau de détail? Le prêtre n'a pas besoin de connaître tous les détails. Voilà, il n'y a pas besoin de connaître le nom, l'âge, le lieu, le numéro de carte bleue de la personne à qui vous avez fait du mal. Mais vous donnerez les détails qui sont juste nécessaires à comprendre la chose. Je vous donne un exemple, je me permets de donner un exemple. Imaginez un enfant qui dise en confession j'ai menti en donnant l'heure. Bon, d'accord. Et puis le même qui dirait j'ai menti en donnant l'heure à ma mère. Ah bah ça, il y a une gravité à cause de la personne à qui il l'a dit. Ou qui dit j'ai menti en donnant l'heure à ma mère pour faire punir mon frère. Ah bah tiens, ça devient un petit peu différent. J'ai menti en donnant l'heure à ma mère pour faire punir mon frère, pour me venger de lui. Ah bah vous voyez que dans le premier cas, on pensait qu'on avait affaire simplement, on pourrait dire, à un mensonge. Quand on a tous les détails, en fait, le cœur de l'affaire, c'est la vengeance. Voilà, c'est donner les détails nécessaires. Après, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Aussi, quand nous nous confessons, nous n'avons pas besoin d'essayer de nous justifier ou de nous trouver des excuses. C'est le Christ lui-même qui sera notre avocat. Laissons-le faire. Disons les actes tels qu'ils sont. et après laissons faire le Seigneur. C'est lui qui nous fait miséricorde. Alors sachez aussi que le regard que le prêtre porte sur vous dans la confession n'est pas du tout un regard qui serait méprisant. Jamais le prêtre ne nous dira « Ah, vous avez fait ça, ah, c'est affreux, ah, c'est épouvantable, ah, j'aurais pas cru ça de vous, je suis très déçu, ah, il a fallu que ça tombe sur moi. » Ça, c'est notre cœur qui a peur, qui peut le penser, qui peut le projeter. Le prêtre, quand il nous voit demander la confession, il voit quelqu'un qui est poussé par l'Esprit Saint. Et donc, le cœur du prêtre même est fortifié lorsqu'il voit des gens parfois dire des choses qui sont difficiles, qui sont humiliantes, qui sont lourdes, et qu'ils les disent, voilà, sans détour, sans cacher quoi que ce soit. Le prêtre se dit tout d'un coup, mais combien il se laisse guider par l'Esprit Saint pour pouvoir dire ces choses difficiles sans se chercher d'excuses, en allant droit au but. C'est ça que le prêtre voit. Il voit quelqu'un qui est poussé par l'Esprit Saint. Alors, combien de fois un chrétien est-il appelé à se confesser ? Normalement, au moins une fois par an. C'est une négligence grave de se confesser moins d'une fois par an. Le pape Jean-Paul II invitait les chrétiens à se confesser tous les mois. Alors, de la même façon qu'on peut avoir un rendez-vous avec son médecin ou je ne sais qui, on met dans son agenda le rendez-vous avec son confesseur, ça fait partie de notre vie. Ça ne doit pas forcément être très long, mais en étant régulier, il y a un vrai progrès de vie spirituelle que l'on peut constater. Alors Jean-Paul II lui-même se confessait toutes les semaines. C'est un appel particulier qu'il ressentait. Donc vraiment, pour, j'allais dire, vivifier votre vie baptismale, n'hésitez pas à recourir à ce sacrement de la réconciliation, à y recourir souvent, en tout cas, au moins avant votre mariage. Voilà ce que je voulais vous dire autour de ce chapitre, notre vocation baptismale.